France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. À quoi sert donc le G20? En ce moment même, les dirigeants des 19 pays les plus riches du monde et de l'Union européenne, les patrons des banques centrales, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale sont connectés jusqu'à demain sur une plateforme virtuelle pour tenir leur assemblée annuelle. L'objectif est traditionnel, œuvrer à une meilleure coordination économique et financière. Les circonstances, évidemment, le sont beaucoup moins. La pandémie inflige ses stigmates à des degrés divers à tous les participants qui s'étaient réunis une première fois en mars dernier sans grand résultat. La présidence du G20 tourne entre ses membres et cette année, l'Arabie Saoudite en a la charge. Un pays dont les rêves de métamorphose économique sont pour le moins ébréchés et dont le bilan en matière de droits humains reste accablant. Aux grandes dames des ONG qui y voyaient une occasion de pression, mais aussi de la monarchie soucieuse de redorer son blason, le format virtuel ne se prête pas aux démonstrations. Reste au programme de ces deux jours l'évaluation de l'impact de la pandémie, les mesures à prendre pour relancer l'économie mondiale, le sort des pays les plus pauvres, plus gravement atteints encore, alors que deux événements éclaircissent l'atmosphère, la prochaine mise sur le marché de plusieurs vaccins anti-Covid et aux yeux de certains, en tout cas, l'élection de Joe Biden, plus attaché au multilatéralisme que l'actuel président américain qui n'a confirmé sa participation que la nuit dernière. Que faut-il attendre de ce G20 au moment même où la Chine, s'affichant encore une fois en championne du libre-échange, promeut un vaste accord commercial en Asie-Pacifique? Faut-il y voir un signe de plus du déplacement du centre de gravité du monde, une nouvelle remise en cause d'une architecture internationale désormais dépassée? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Pascal Lamy. Vous êtes président du Forum de Paris pour la paix et l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Avec nous aussi par téléphone, tout le monde est d'ailleurs par téléphone, Françoise Nicolas, vous êtes la directrice du Centre Asie à l'Institut français des relations internationales, et Stéphane Lacroix, professeur à Sciences Po, chercheur au CERI, spécialiste du monde arabe. Pascal Lamy. À quoi sert donc ce G20 très particulier à un moment où, bien évidemment, le multilatéralisme n'est pas à son meilleur?
Eh bien, c'est un G20 effectivement un peu étrange, comme beaucoup de choses dans cette période Covid. Le G20, qui est un groupe informel, comme vous l'avez dit, ça n'est pas une institution internationale au sens plein du terme, il n'a pas été créé par un traité, c'est une espèce de club, se réunit pour coordonner les économies dans le monde. Ça n'est pas une instance politique, on n'y discute pas de sujets politiques qui sont malvenus. On nous discute de sujets de coordination économique et, comme vous venez de le dire, cette fois-ci, les deux grandes questions économiques qui se posent, c'est effectivement l'ampleur, la profondeur de la crise économique que génère la pandémie dans toute cette planète, les moyens de coordonner les réactions dans la mesure où on peut le faire, et puis évidemment les perspectives de relance, et puis d'un autre côté, un sujet très urgent, qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec celui-là, c'est cette affaire de vaccin, puisque en gros, un mois de plus en attendant le vaccin, ça coûte, selon les estimations, entre 300 et 500 milliards de dollars à l'économie mondiale. Donc normalement, ce G20 devrait se pencher sur l'urgence, comment on finance les vaccins dans la partie du monde qui aujourd'hui n'y a pas accès et qui en gros devra attendre 2024, à supposer que nous, les riches, qui sommes couverts par des achats, n'attendions que l'été 2021. Et puis, d'autre part, comment assurer cette distribution? Et là, il y a des propositions sur la table qui méritent, à mon avis, d'être agréées, même si c'est pas sûr, des missions par le FMI de monnaie supplémentaire pour financer ces distributions de vaccins qu'on appelle des droits de tirage spéciaux.
À lire les rares papiers décrivant les attentes de ce G20, on s'aperçoit qu'il y a un espèce de double effet trompeur. Il y a l'effet virus que vous venez évidemment d'expliquer, mais il y a aussi l'effet Biden. On a vu la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, dire « Ah, on espère bientôt un retour au multilatéralisme », mais c'est quand même très prématuré parce que Monsieur Biden ne sera aux affaires qu'à partir du 21 janvier. Donc, dans un sommet virtuel, alors que d'habitude, semble-t-il, ce qui compte, ce sont les échanges personnels, les conversations bilatérales, donc celles-là auront difficilement lieu. Comment est-ce que ce double effet trompeur, le virus plus Biden, ne va pas déformer un peu plus l'exercice ?
Vous avez raison, cet exercice est parti pour être déformé, absolument, voire même ne pas vraiment être formé. Je doute d'ailleurs qu'il en sorte quoi que ce soit, notamment, et on en parlera sans doute avec des gens qui sont plus compétents que moi, parce qu'une présidence par l'Arabie Saoudite d'un tel club mondial, ça peut faire un peu douter, voire éventuellement un peu sourire compte tenu des circonstances. Vous avez raison, le point de départ, et j'en témoigne pour avoir travaillé dans ces questions internationales depuis 30 ans, le point de départ, c'est que nous sommes dans une situation dans laquelle je n'ai jamais vu une coopération internationale au niveau étatique aussi médiocre. Cette crise a révélé ce que l'on savait avant le Covid, c'est-à-dire que le multilatéralisme au sens classique du terme, c'est-à-dire au sens du traité de Westphalie, des États-nations qui discutent entre eux, qui concertent entre eux, qui établissent entre eux des procédures, des traités, des institutions. Ce système est très malade. Trump, évidemment, a essayé d'aggraver encore la crise multilatérale, sans vraiment d'ailleurs y parvenir. Bon, le G20 est une espèce de patch qui est là pour boucher quelques trous qui existent dans la coopération internationale. Mais, disons, aujourd'hui, la vérité, je crois, hélas, c'est que nous avons un système multilatéral tel qu'il a été conçu depuis 50 ou 60 ans, voire même 70 ans, très mal en point. Il a à peu près résisté au coup de poing et au coup de pied de M. Trump, mais il faut repenser tout ça, et c'est pas le G20 de cette fois-ci, présidé par l'Arabie Saoudite, à mon avis, qui va offrir de vraies perspectives sur ce terrain.
Françoise Nicolas, est-ce que vous partagez ce scepticisme sur d'éventuels résultats ? On se souvient quand même que lors du krach financier de 2007-2008, le G20 de 2009 avait bien coordonné les réponses des pays riches et des institutions conçues pour ce faire.
Oui, mais c'est à peu près la seule occasion à laquelle le G20 a montré une certaine efficacité. Bon, il est clair que ce genre d'instance, autoproclamée par parenthèse, n'a d'utilité qu'en période de crise, en réalité. Il faut vraiment qu'il y ait des problèmes très très pressants pour que ce genre d'instance ait une vraie efficacité.
Bon, et là, on y est.
Le principe est idéal, on y est, effectivement. Là, on est devant une crise massive. Cela étant, moi, je partage le scepticisme de Pascal Lamy. Les conditions ne sont pas vraiment réunies pour qu'il y ait une volonté de coopération. Alors, on a vu certains petits éléments, malgré tout. Si on essaie de trouver certains éléments positifs dans ce qui a été discuté en mars et puis au cours des mois qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même une petite avancée sur le traitement de la dette des pays pauvres. Là, on a eu une initiative qui porte sur un moratoire du paiement de la dette, initiative sur la suspension du service de la dette. Donc ça, c'est une petite avancée. On aide quand même, on donne un petit coup de pouce à ces pays-là. Et ce moratoire a d'ailleurs été étendu. Il était prévu jusqu'à la fin de cette année et il est prolongé. Et là, le G20 est en partie à la manœuvre derrière cette initiative. Donc si on essaie quand même de trouver certains éléments positifs, il y a cette petite avancée là.
Pour enfin, le, pour pardon, je vous interromps, c'est une petite avancée, mais qui concerne quand même, je crois, quelques 73 pays. Et la patronne du Fonds monétaire international, Madame Georgieva, a dit qu'en fait, oui, il y aurait besoin de trillions, je ne sais pas si on dit ça en français, de trillions de dollars. Le FMI a débloqué des aides d'urgence, mais c'est quand même de l'oxygène, si j'ose dire, pour les pays les plus pauvres et surtout africains.
Oui, bon, par parenthèse, les trillions en anglais, c'est les billions en français, hein, si je ne me
trompe. Ah, d'accord. Enfin, okay.
Mais ça fait beaucoup de zéros, de toute façon. Oui. Donc, non, effectivement, c'est une avancée, c'est une aide. Le FMI est très, très actif derrière cette initiative. La Banque mondiale l'est un peu moins, par parenthèse. Le problème, et c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, c'est que le diable est dans les détails. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est exactement quelles sont les parties de la dette qui seront couvertes. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en principe, ça ne concerne que la dette qui est octroyée par les pays du Club de Paris, en particulier. La Chine s'est associée à l'affaire, mais toute la dette contractée auprès de la Chine n'est pas couverte parce qu'une partie de cette dette serait auprès de la China Development Bank, qui est considérée par la Chine comme étant un créancier commercial et donc la dette ne serait pas couverte par ce dispositif. Donc tout n'est pas aussi clair que ça.
Donc ça veut dire que les pays occidentaux rembourseraient à cette banque chinoise, qui est sûrement parapublique,
bien sûr,
une partie des fonds avancés. Mais la Chine est devenue le premier bailleur bilatéral de ces pays.
Tout à fait, la Chine est le premier bailleur bilatéral, même s'il est assez difficile de faire le total exact de la dette qui est due à la Chine, mais bon, il est assez incontestable qu'elle est le premier bailleur. Mais tout ça, ce que je veux dire par là, c'est que on a une avancée, on a des efforts qui sont faits, qui sont consentis de la part des pays riches à l'égard de ces pays pauvres endettés, mais tout n'est pas non plus aussi clair que ça, on ne sait pas exactement quelle va être la couverture totale de cet allègement. Et en plus, ce que l'on voit, c'est qu'en principe, 73 pays sont éligibles à ce dispositif. Or, pour l'instant, seuls 46, je crois, ont fait appel à ce dispositif parce qu'ils ont peur qu'en faisant appel à ce dispositif, ils soient mis à l'écart de l'accès à d'autres financements ultérieurement. Donc tout cela est assez compliqué. Mais si on revient à l'efficacité du G20, bon, il me semble malgré tout que c'est un domaine dans lequel quelque chose est fait, donc il faut quand même reconnaître ça. Au-delà de cette petite avancée, moi je vois quand même pas grand-chose. Et c'est pour ça que je partage largement le scepticisme de Pascal Lamy. Il y a une avancée qui pourrait être faite aussi, c'est effectivement l'allocation de droits de tirage spéciaux complémentaires. Pascal Lamy a fait allusion, et c'est ce qui avait d'ailleurs été fait en 2008-2009, où il y avait, si ma mémoire est bonne, 270 milliards de dollars de DTS qui avaient été alloués en plus. Donc ça serait un pas en avant. Je ne sais pas si ce sera le cas cette fois-ci.
C'est ce qu'on verra, j'imagine.
Voilà, on verra lors ça du... peut-être ce week-end.
C'est ça, lors du bilan demain. Donc c'est le moment, Stéphane Lacroix, de nous interroger sur le pays hôte, l'Arabie Saoudite, qui est le premier pays arabe à jouer un tel rôle, un rôle sur la scène mondiale que, évidemment, la monarchie, à commencer par le prince héritier, Mohamed Ben Salman, voulait célébrer de façon éclatante, et là, c'est raté, puisque tout ça se passe en virtuel.
En effet, c'était une grande nouvelle pour l'Arabie Saoudite, qui est dans une stratégie de communication tous azimuts depuis l'arrivée au pouvoir du roi Salman et de son prince héritier Mohamed Ben Salman en 2015. Ça devait, d'une certaine manière, être le joyau de la couronne, hein, cette organisation du G20, dans un contexte compliqué, par ailleurs, pour cette stratégie de communication, parce qu'il y a eu l'assassinat terrible du journaliste Jamal Khashoggi à la fin 2018, qui a été quand même un caillou dans la chaussure d'MBS. Un caillou sanglant qui a mis quand même un coup d'arrêt à un certain nombre de ses efforts de communication. Donc le G20 devait marquer à la fois la normalisation de l'Arabie Saoudite, le retour d'MBS comme un des grands dirigeants de ce monde adoubé par les autres. Hein, ce que les Saoudiens espéraient, c'était évidemment un G20 en présentiel, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire avec des photos, avec tous les grands chefs d'État. Riyad s'était préparé à organiser des festivités somptueuses. On avait déjà installé partout dans la capitale des grandes affiches montrant MBS comme organisateur de ce G20 et célébrant la vision 2030 qui est son projet pour l'Arabie Saoudite, et faisant donc de ce G20 la preuve que l'Arabie Saoudite est une nation respectée parmi les nations du monde, etc. Donc tout ça tombe à l'eau, c'est effectivement une catastrophe pour les Saoudiens, qui ont dépensé beaucoup d'argent par ailleurs avec des cabinets de conseil, des agences de publicité, parce que finalement là encore depuis quelques années on est dans une stratégie de, comme je l'ai dit, de communication tous azimuts. Et évidemment, la communication tous azimuts, ça marche beaucoup moins bien quand on est en visioconférence. Donc oui, pour l'Arabie Saoudite, c'est effectivement une mauvaise nouvelle que les choses se déroulent ainsi. Ça ne permettra pas à l'Arabie de faire passer son message. Et on voit que, je veux dire, quand on regarde la couverture du G20 dans les médias, alors que l'Arabie Saoudite a quand même essayé d'organiser des choses autour de la question en particulier du droit des femmes, qui est la grande question pour les Saoudiens, puisqu'ils ont autorisé les femmes à conduire, puisqu'il y a un certain nombre d'avancées en Arabie Saoudite sur cette question qui, pour le coup, c'est vrai, a toujours été une question problématique pour l'Arabie, puisque l'Arabie était un pays où les femmes avaient très peu de droits jusqu'en 2015. Et donc les Saoudiens espéraient aussi mettre tout ça en avant pour montrer combien ils avaient changé. Or, en fait, on voit que la couverture internationale, elle est extrêmement défavorable à l'Arabie Saoudite. On parle surtout de la question des droits de l'homme, on parle surtout de l'affaire Khashoggi qui revient sur le devant de la discussion.
Donc, et de cette jeune femme de 31 ans, Loujaine Al-Atloul, dont deux des sœurs vivent en Europe, une à Berlin, me semble-t-il, et une à Bruxelles. Et donc, on voit comment cette jeune femme, qui est une militante historique du féminisme en Arabie Saoudite, qui est en prison, qui a entamé une grève de la faim à l'occasion de ce G20 pour attirer davantage encore l'attention sur les droits humains et le sort de ces femmes. Il y a plusieurs femmes qui sont encore en prison, sous la suspicion qui paraît absurde, qu'elles auraient été des agents de l'étranger sous prétexte qu'elles étaient en contact avec des ONG étrangères.
Oui, absolument. Et donc on a plusieurs femmes qui sont des militantes historiques de la cause des femmes en Arabie qui sont en prison. On a aussi des dizaines d'activistes pour les droits de l'homme et pour la démocratisation du pays qui sont en prison depuis toutes ces années. Et le rythme des arrestations, pardon, c'est considérablement accéléré depuis l'arrivée au pouvoir d'MBS. Donc on a effectivement un bilan en matière de droits de l'homme qui est tout à fait problématique et bien pire que celui de l'Arabie Saoudite d'avant. Parce que nos auditeurs doivent se dire de toute façon que l'Arabie Saoudite mette des gens en prison, c'est pas nouveau, entre guillemets. L'Arabie Saoudite a toujours
eu cette
image.
Et la peine de mort.
Mais les choses se sont empirées depuis quelques années. Et c'est tout le paradoxe de ce personnage qui est MBS, qui d'un côté essaye de renvoyer au monde cette image de modernisateur, de celui qui accorde des droits sociaux, de celui qui est en train de transformer l'économie du royaume et en train de transformer la société, et qui, dans le même temps, effectivement, met en prison tous ceux qui osent s'exprimer ou adopter des positions critiques à son égard, y compris ceux qui, sur le fond, seraient d'accord avec son projet, puisque Loujaine Al-Atloul avait manifesté pendant des années pour le droit à ce que les femmes conduisent, et elle a été emprisonnée 2 semaines avant l'octroi de ce droit.
Oui.
Ce qui est tout le paradoxe. MBS dit d'une certaine manière, c'est moi qui décide. La société n'a rien à dire. Donc, je vous donne le droit de conduire parce que je suis le grand souverain éclairé qui ait pris cette décision en mon âme et conscience, mais vous, société, n'avez rien à dire, et si vous vous exprimez, vous êtes en prison.
Donc, il fallait voir avec quelle suavité le ministre des Affaires étrangères saoudien, Al-Joubert, expliquait hier soir à la BBC, en direct, à quel point, oui, l'Arabie saoudite était en quelque sorte un paradis pour tous les droits. Stéphane, comment est-ce que la pandémie est gérée en Arabie saoudite ?
Alors, il faut reconnaître que les Saoudiens s'en sont plutôt bien sortis. Parce que on voit que, alors il y a eu une première vague assez dure, bien moins dure qu'elle ne l'a été, cela dit, dans nos contrées, mais si on place l'Arabie au niveau du Moyen-Orient, l'Arabie a quand même été un des pays les plus touchés au Moyen-Orient, essentiellement du fait des foyers de travailleurs étrangers, puisque vous avez en Arabie toute une population de travailleurs migrants, hein, qui viennent pour la plupart d'Asie et qui sont logés dans des conditions souvent insalubres, donc dans des foyers de travailleurs étrangers qui sont évidemment du fait de la promiscuité promiscuité, en particulier des lieux tout à fait propices à la contagion. Donc, comme un certain nombre de pays en fait du Golfe, l'Arabie Saoudite a d'abord été touchée essentiellement donc par ces foyers de travailleurs étrangers, mais vite les Saoudiens ont réussi à quand même reprendre le contrôle. Il n'y a pas de deuxième vague pour le moment.
Et les pèlerinages ont été interrompus à un moment donné.
C'est ça, le pèlerinage a été réduit à la portion congrue, ce qui est tout à fait nouveau, hein, puisqu'il y a eu un tirage au sort d'un tout petit nombre de pèlerins qui avaient le droit cette année de faire le pèlerinage en respectant les distanciations sociales. Donc on était très très loin des millions de pèlerins qui viennent d'habitude. Et c'est vrai qu'MBS a aussi beaucoup joué sur ça pour se construire sa stature. Il y a tout un discours autour de MBS, l'homme fort, qui a su gérer la pandémie, qui a su épargner à l'Arabie Saoudite les conséquences de la pandémie telles qu'elles se sont manifestées dans les pays européens notamment. Donc effectivement, ce qui est assez fascinant en fait, c'est qu'on a vraiment un récit d'MBS qui se construit au niveau national en Arabie, hein, à destination de la population saoudienne, dont on peut dire que jusqu'à un certain point il fonctionne, c'est-à-dire que il y a vraiment une mise en scène, alors évidemment dans un champ médiatique ultra contrôlé, puisqu'en Arabie Saoudite aujourd'hui il n'y a plus que la parole de l'État, il n'y a pas, évidemment pas de discours critique autorisé, mais ce récit d'un MBS modernisateur, d'un MBS capable de protéger sa population face à la pandémie, j'ai l'impression que ce récit fonctionne en partie, en tout cas qu'une partie des Saoudiens ont envie d'y croire et que ça lui permet de garder en interne une certaine popularité. Et ce récit est complètement déconnecté de l'image que MBS a à l'international, qui est celui, au contraire, de celui qu'on appelle Mr. Bonso, en anglais, hein, le Monsieur Si, puisque Monsieur Si à Os, pardon, puisque dans l'affaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi avait été utilisée une Si qui avait été repérée par les douanes turques à son passage à Istanbul, et qui devait servir à découper Jamal Khashoggi en morceaux pour le faire disparaître. Donc, effectivement, on a un décalage absolu entre ces deux images, et je crois que le problème des Saoudiens, il est vraiment d'arriver à corriger leur image à l'international. Et pour revenir sur le G20, c'est évidemment pour cela une occasion manquée, à mon avis.
Pascal Lamy, le G20 n'a jamais prétendu, vous rappeliez à juste titre que ce n'est pas une organisation pérenne en quelque sorte, c'est un club, et bon, dans ce club on n'a jamais prétendu partager le même système de valeurs. Néanmoins, le fait que les Saoudiens en soient les hôtes pose un autre problème qui est quand même un problème de savoir-faire, parce que l'Arabie Saoudite n'a pas un appareil ou une fonction publique extrêmement développée, et comme le rappelait Stéphane Lacroix, MBS fonctionne avec des cabinets de consultants américains pour la plupart.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. J'y viens. Une précision, si je peux, sur ce que vient de dire Stéphane Lacroix. La gestion du Covid au Moyen-Orient a été marquée par certains succès, encore que si on met l'Iran dans cette région, c'est évidemment une catastrophe. Mais il faut se souvenir que le Moyen-Orient a connu son Covid au début des années 2010. En 2012, est apparu dans cette région une version du Covid, qui n'est pas celle de la pandémie actuelle, et auquel les populations de la région ont eu à faire face. Et d'aucuns indiquent que ça aurait peut-être produit une certaine forme d'immunité, comme parfois avec des virus grippaux qui ne sont pas les mêmes mais qui se ressemblent.
C'est celle qu'on a appelée la maladie du légionnaire, ou je me trompe ?
Ça porte le doux nom de MERS, qui sont les initiales anglaises syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et généralement, d'ailleurs, on essaie de s'arranger au niveau international dans ces cas-là pour ne pas trop montrer l'origine exacte du virus en question, pour stigmatiser la région en question. Et d'ailleurs, c'est ce que Trump, comme vous le savez tous, a essayé de faire abondamment avec la Chine pendant un moment, sans vraiment y parvenir d'ailleurs. Je réponds à votre question, bien sûr, que la capacité de monter un G20, c'est-à-dire de préparer une réunion avec des collaborateurs, des experts, des discussions, des réunions, Effectivement, c'est très très loin d'être la spécialité de l'Arabie Saoudite. Il y a d'ailleurs assez peu de pays dans le monde, il y en a peut-être, je dirais, 6, 7, 8, qui sont vraiment capables de disposer du savoir-faire organisationnel, de l'expertise, pour monter un exercice comme celui-là, pour qu'il réussisse. Vous avez cité tout à l'heure, François Julien a cité le G20 de 2009, auquel j'assistais.
Françoise Nicolas, oui.
Pardon, François Nicolas. Le G20 de 2009, auquel j'assistais quand j'étais directeur général de l'OMC, il était présidé par les Britanniques. C'est vrai que ça a été un très grand succès, mais la diplomatie britannique, qui est probablement la meilleure du monde, en tout cas une des meilleures, y mettons avec la diplomatie française, la diplomatie américaine, a vraiment déployé pendant toute une année un travail énorme. C'est évidemment absolument pas à la portée d'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui, comme vous le dites à juste titre, en fait a recouru à des consultants sur le marché, un peu comme on le fait quand on veut assembler les pièces de quelque chose, pour fabriquer des briques qui sont censées être coordonnées, assemblées au dernier moment, au moment de cette réunion. Et donc, c'est une des raisons de plus, on y reviendra sans doute, pour lesquelles je ne crois pas beaucoup que ce G20-là fera marque.
Est-ce qu'il y a un autre facteur qui joue, le facteur pétrole, dont l'Arabie Saoudite a su jouer pendant des décennies, en étant jusqu'à une époque assez récente le premier producteur ou le producteur le plus puissant du monde? Ce n'est plus le cas, ce sont les États-Unis en principe. On a vu cette alliance avec Vladimir Poutine, MBS Poutine, ce qui était inattendu. Pascal Ami, est-ce que le pétrole, dont le cours s'est évidemment effondré, en particulier depuis la pandémie, est-ce que le facteur pétrole aussi contribue à une moindre efficacité, disons, du rôle potentiel de l'Arabie Saoudite?
C'est incontestable à long terme, comme ça l'est d'ailleurs pour la Russie. Le pétrole est un astre mort, historiquement. Donc, à 50 ans d'ici, à 80 ans d'ici, le pétrole aura complètement perdu l'importance stratégique qu'il a eue depuis qu'on a inventé l'automobile et que on avait besoin de ce carburant dans les guerres pour faire progresser des machines à tuer qui utilisent des moteurs à essence. En gros, cette période est historiquement terminée, et je dis astre mort parce que nous savons qu'il y a dans le cosmos des astres morts, mais dont nous recevons toujours la lumière, parce qu'ils sont tellement lointains que même si la lumière va très très vite, elle met beaucoup de temps à arriver à notre œil. Le pétrole, c'est ça. Alors, c'est pas pour les 10 ans ou les 20 ans qui viennent, mais sur le plan géopolitique et sur le plan géoéconomique, on le sait, la consommation d'énergie fossile diminuera, et la production en même temps, au moment où elle croisera la courbe de la montée des énergies renouvelables, et ça, c'est effectivement quelque part entre dans les années 2040-2050. Donc, à long terme, ces pays doivent absolument, s'ils veulent continuer à exister sur le plan économique et sur le plan international, ils doivent diversifier leur économie. Nous, on a une transition écologique à faire pour passer aux énergies renouvelables. Eux, ils ont une transition économique à faire pour se passer de cette énorme rente sur laquelle ils ont vécu, puisque, et je termine là ma réponse à votre question, dans ce capitalisme de marché global censé être régi par les règles de la concurrence, on a accepté depuis le milieu des années 30, en gros, on a accepté une énorme verrue, une énorme absurdité, qui est un cartel une entente entre les pays pétroliers pour nous faire payer 90% de plus que ce que ça coûte de l'extraire. C'est une performance d'ailleurs diplomatique et économique extraordinaire. Elle a des racines géopolitiques profondes. Elle est en train de se terminer. Sans doute, l'Arabie Saoudite a-t-elle, comme d'ailleurs la plupart des pays de la région, et notamment les Émirats, et notamment le Koweït et le Qatar, préparer l'avenir en diversifiant ses économies et ses placements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons tellement de ces pays dans les actionnaires, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, de l'économie contemporaine.
Précisément, Stéphane Lacroix, c'est tout le sens du projet 2030 du prince et héritier saoudien. Évidemment, les esprits narquois disent que c'est pas le projet 2030, c'est le projet 3020, et surtout avec un prix du pétrole aussi bas. Comment se comporte l'économie saoudienne?
Oui, en effet. C'est-à-dire que, comme l'a expliqué Pascal Lamy, l'Arabie Saoudite est un État qui a été très très longtemps essentiellement dépendant du pétrole pour son économie, ce qu'on appelle en sciences politiques un État rentier. Et le projet d'MBS, et il a été affiché comme tel à son arrivée au pouvoir après 2015, a été de sortir de l'économie rentière et de diversifier l'économie pour faire que les ressources économiques de l'Arabie Saoudite proviennent d'autres sources que du pétrole. Et il avait d'ailleurs affiché l'année 2022 comme l'année où, pour la première fois, les revenus non pétroliers dépasseraient les revenus pétroliers. Donc tout ça était évidemment très très ambitieux, on en est extrêmement loin. Alors, pour des raisons qui sont liées d'abord au projet lui-même, dont la plupart des économistes considéraient d'emblée qu'il était complètement irréaliste, parce que, il voulait en particulier mettre en place toute une industrie touristique, et dans un pays comme l'Arabie Saoudite, mettre en place une industrie touristique, c'est quand même assez compliqué, ça va prendre du temps, parce que il y a des changements à faire dans la société. Alors on peut estimer qu'effectivement la société saoudienne est en train de changer, et qu'elle est peut-être aujourd'hui plus à même de recevoir des touristes, mais ça implique aussi un changement d'image du pays. En tout cas, on pouvait pas s'attendre que les touristes viennent en Arabie Saoudite par millions dans les quelques années à venir. L'autre problème, c'est que c'est un projet qui est extrêmement dépendant de l'économie globale, puisqu'en fait, il est censé s'appuyer pour l'essentiel sur des investissements étrangers, d'où toutes les conférences que les Saoudiens ont organisées ces dernières années pour faire venir les investisseurs en masse à Riyad, leur montrer que l'Arabie Saoudite est un pays dans lequel il faut qu'ils mettent leur argent parce que c'est une économie prometteuse. D'où aussi, d'ailleurs, l'importance de ce G20, hein, qui s'inscrivait dans tous ces efforts, puisque, encore, le G20, effectivement, c'est avant tout une instance économique, et ça devait être pour l'Arabie Saoudite encore une occasion de convaincre ses grands partenaires internationaux que l'économie saoudienne était une économie prometteuse dans laquelle il fallait mettre ses billes.
Et surtout à un moment, Stéphane, où ils sont en train de perdre leur meilleur allié, leur meilleur ami, Donald Trump, avec un Joe Biden qui n'a pas hésité pendant la campagne électorale américaine, a qualifié l'Arabie Saoudite d'État paria.
Oui, c'est tout à fait inédit. Sur la question américaine, c'est vrai que l'Arabie Saoudite d'MBS a commis des erreurs majeures. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire diplomatique de l'Arabie Saoudite, les Saoudiens ont toujours entretenu de bonnes relations avec les deux grands partis américains, le Parti démocrate et le Parti républicain, de manière à ce que le parapluie américain soit une constante, qu'il soit sûr d'avoir des amis à Washington, quel que soit le camp vainqueur. Et l'une des erreurs d'MBS, en effet, a été de mettre toutes ses billes dans le même panier. Il a tout misé sur Trump à un moment où il était contesté, et en particulier après l'affaire, là encore, Khashoggi, puisque c'est finalement le soutien de Trump qui a évité à MBS de subir les foudres de la communauté internationale, comme certains pays à l'époque l'auraient voulu. Donc effectivement, ils ont tout misé sur Trump. Ils ont, de fait, ils se sont mis à dos une partie des démocrates qui, jusque-là, entretenaient de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite. Et le risque est aujourd'hui, en effet, que, avec l'arrivée des démocrates au pouvoir, on ait un retour de bâton dans la politique américaine, et que, pour la première fois, l'Arabie Saoudite soit sommée de rendre des comptes. Ce qui n'avait pas été le cas par le passé, même quand on pense, par exemple, au moment du 11 septembre, où il y a eu toute cette polémique à Washington, et ce procès des victimes du 11 septembre. À l'époque, l'administration Bush avait malgré tout protégé l'Arabie Saoudite.
Ah oui. Donc, et la famille royale qui avait pu quitter le territoire américain alors que tous les vols étaient interdits.
Exactement. Donc vous avez là un contexte qui est tout à fait nouveau, où l'Arabie Saoudite risque de se retrouver en effet aux États-Unis avec un pouvoir qui ne compte plus en son sein autant de relais de l'Arabie Saoudite et qui risque donc de demander des comptes. Et en particulier,
enfin, ça reste un énorme client pour les industries de l'armement américain et avec une guerre au Yémen où l'enlisement saoudien perdure.
Oui, en effet. Et alors, c'est ça qui va contrebalancer, c'est qu'effectivement, Biden tient des propos extrêmement durs dans la campagne, mais on sait très bien que il faut prendre les propos de campagne pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des propos de campagne, et qu'une fois au pouvoir, Biden n'ira pas aussi loin. Mais en tout cas, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que l'administration de Biden ne fasse pas de cadeau à Riyad, à la différence de Trump.
Donc, effectivement, mais on a vu déjà, Stéphane, c'est ma dernière question, un pivot vers l'Asie de la part de l'Arabie Saoudite et des investissements saoudiens au Pakistan, en Inde et un rapprochement très net avec Pékin.
Absolument, c'est ce sur quoi va jouer MBS et c'est sur quoi va jouer l'Arabie Saoudite. En disant si vous ne voulez plus de nous, nous allons regarder vers l'Est. Et on voit en effet que depuis une dizaine d'années, il y a clairement en Arabie Saoudite un intérêt de plus en plus grand pour un partenariat avec la Chine et avec les pays d'Asie, avec la Russie aussi dans une certaine mesure, même si le partenariat avec la Russie est plus politique qu'économique en fait, parce que c'est plutôt sur le plan économique la Chine qui compte pour les Saoudiens. Et il est clair que si Biden ou si l'administration Biden devait prendre des positions plus dures à l'égard de l'Arabie Saoudite menacerait entre guillemets de compenser la perte du soutien américain par une relation plus étroite avec la Chine, et peut-être que cet argument-là ferait réfléchir Biden avant de prendre ses distances. On l'avait vu déjà en fait après l'assassinat de Khashoggi, les Saoudiens avaient organisé un grand forum des investisseurs à Riyad qui devait être encore quelque chose de somptueux où on faisait venir tous les grands patrons du monde pour leur montrer combien l'économie saoudienne était florissante et prometteuse. Et la plupart, en fait, des grandes entreprises occidentales, à cause de l'affaire Khashoggi, avaient au dernier moment annulé leur participation, alors que toutes les entreprises chinoises, russes et pour l'essentiel des pays d'Asie étaient venues. Et les Saoudiens avaient justement joué sur ça en disant « Regardez, si vous voulez plus de nous, de toute façon, on peut vous remplacer par d'autres. » Donc effectivement, ils vont jouer sur ça, c'est très clair, et on va voir comment l'administration Biden va réagir à ce type de pression.
Merci Stéphane Lacroix pour ces éclairages précieux. Françoise Nicolas, on a vu ces derniers jours Pékin, Xi Jinping, orchestrer une présentation de la Chine en grande championne du multilatéralisme. C'est pas la première fois, mais là, il y a eu plusieurs sommets asiatiques, en tout cas hier et avant-hier, le sommet de l'APEC, qui regroupe, je crois, 21 pays riverains du Pacifique, dont la Chine et les États-Unis. D'ailleurs, Donald Trump y participait, semble-t-il, tout ça de façon virtuelle. Et la Chine a annoncé le lancement, si j'ose dire, une grande opération de communication, en tout cas, d'une nouvelle alliance libre-échange, 15 pays, l'acronyme c'est RCEP, un tiers de la population mondiale. Il n'y a ni l'Inde, ni les États-Unis, encore moins l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que ce RCEP ?
Alors, d'abord, effectivement, on se trouve là, en ce moment, dans une séquence de communication extrême du côté de la Chine. Bon, tout à l'heure, vous disiez que l'Arabie Saoudite n'était pas très habile dans sa communication et qu'elle avait quelques difficultés à imposer son narratif, comme on dit aujourd'hui. Ce n'est certainement pas le cas de la Chine. Donc, s'il y a des leçons à tirer, c'est peut-être du côté de Pékin que l'Arabie Saoudite devrait regarder. La Chine est absolument imbattable pour s'ériger en héros de ça ou d'autre chose. Alors, c'est pas la première fois que la Chine s'érige en héros du multilatéralisme. Elle l'avait déjà fait à l'occasion du forum de Davos il y a quelques années, où elle était apparue comme étant le défenseur du multilatéralisme et du libre-échange. Je pense que vous vous en souvenez. Alors, c'était au moment où Donald Trump, lui, était justement dans une posture très anti-multilatéralisme. Donc la Chine s'affichait comme étant, elle, capable de défendre ses valeurs qui jusque-là étaient défendues par l'Occident. On sait exactement la même logique qui s'appliquait aujourd'hui. Et effectivement, on a eu ce sommet qui a débouché sur la signature, enfin la grande cérémonie de signature de ce RCEP, comme vous dites. On a eu l'apparition de Xi Jinping à l'APEC, la participation de la Chine à divers sommets impliquant l'ASEAN. Donc on est dans cette séquence où la Chine est très très présente sur la scène internationale pour des raisons évidentes, c'est que les États-Unis, occupés par leurs propres affaires intérieures, sont en retrait. Donc c'est le moment rêvé pour la Chine de s'afficher comme ça.
Alors, et que Donald Trump n'a eu de cesse, les premières semaines de son mandat, de casser le système de libre-échange que Barack Obama avait voulu mettre en place dans la même zone.
Tout à fait. Donc la Chine dit, voilà, c'est moi qui vais défendre ce système-là. Bon, c'est assez risible quand on sait exactement comment fonctionne l'économie chinoise, mais c'est en tout cas l'impression, l'image que Pékin veut projeter au monde. Alors aujourd'hui, il y a eu effectivement la signature de ce grand accord de libre-échange au niveau asiatique, et Pékin apparaît comme étant le promoteur de cet accord. Alors là, moi, je voudrais quand même un petit peu calmer le jeu, ça n'est pas exactement le cas. Alors, certes, d'abord, Pékin veut apparaître comme tel, et les médias, notamment les médias occidentaux, reprennent ce discours-là. Il faut peut-être un petit peu clarifier la situation, ça n'est pas exactement le cas. Cet accord a été initialement lancé par l'ASEAN. C'est l'ASEAN qui était derrière cette initiative. Bon, cette initiative, effectivement, est une initiative à laquelle participent la Chine et aussi le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Il y avait initialement 16 pays. L'Inde était aussi partie prenante à la négociation. En cours de route, l'Inde a fait faux bond. L'Inde n'a pas voulu aller au bout. Et donc, on se retrouve.
Pourquoi? Pour ne pas tomber sous la coupe de Pékin?
Si vous croyez les déclarations du président Modi et de ses différents représentants, cet accord n'est pas dans l'intérêt de l'Inde. Donc l'Inde ne signera pas cet accord, point final. En réalité, l'Inde estime qu'elle risque gros, parce que son industrie n'est pas compétitive face à l'industrie chinoise en particulier, mais pas exclusivement. Et donc elle a peur d'être inondée en réalité par des produits venant de ses 15 autres partenaires. Donc c'est pour ça qu'elle...
Il n'empêche, Françoise Nicolas, c'est quand même très très impressionnant, une zone de libre-échange regroupant un tiers de la population mondiale. Alors, oui, et avec des systèmes économiques qui n'ont plus rien à... Enfin, c'est pas vraiment l'économie libérale, hein.
Oui, même si l'Inde est absente, on a quand même 15 pays, et effectivement ces 15 pays, à eux 15, représentent 30% du PIB mondial et 30% du commerce mondial. Donc c'est une très vaste zone. Mais comme je le disais tout à l'heure, donc, l'idée n'est pas chinoise. Donc déjà, calmons les esprits là-dessus. Après, il est vrai que cet accord couvre une grande palette de sujets, de thématiques. Il y a effectivement la libéralisation commerciale, mais il y a aussi des dispositions sur les entreprises, petites et moyennes entreprises, sur les marchés publics, sur le commerce électronique, sur l'investissement. Donc c'est un accord qui est relativement ambitieux, plus ambitieux d'ailleurs que ce que l'on pensait au départ. Mais il y a aussi un grand nombre d'exceptions. Il y a quand même pas mal de trous dans la raquette. Un gros trou dans cette raquette, c'est l'agriculture. L'agriculture est de facto quasiment exclue de cet accord. Et puis au-delà de cette grosse exception, il y a aussi toute une série de secteurs qui sont mis de côté par chaque pays en fonction de ses intérêts propres.
Et en particulier, la Chine, je crois, l'exception de ce qu'on appelle le e-commerce.
Oui, mais surtout, la Chine aussi a mis de côté tout ce qui concerne les véhicules électriques. C'est assez intéressant parce que les exceptions imposées par la Chine dans cet accord montrent bien les intentions industrielles chinoises. Il y a certains secteurs qui sont des chasses gardées, en quelque sorte, ou en tout cas dans lesquels la Chine veut garder la main, et donc elle maintient des protections sur ces secteurs-là. Par ailleurs, il faut aussi voir le temps, la période à laquelle cette libéralisation sera effective. Et ce temps, il est assez long. Donc il ne faut pas croire que du jour au lendemain, on aura suppression des droits de douane. Du calme là aussi. Par ailleurs, encore faut-il que cet accord soit ratifié. Pour entrer en vigueur, il faut que, si ma mémoire est bonne, 6 membres de l'ASEAN ratifient l'accord et 3 autres pays non-ASEAN ratifient l'accord. Donc au total, 9 sur les 15, 6 ASEAN et 3 non-ASEAN. Ça va prendre du temps. Et donc là aussi, il ne faut pas s'attendre à ce que cet accord entre en vigueur demain et qu'il y ait une libéralisation le lendemain. Tout ça va prendre du temps. Donc je calmerai un petit peu l'enthousiasme de certains qui pensent que c'est une grosse révolution. Moi, je ne pense pas que ce soit une si grande révolution commerciale que cela. En plus, ce qu'il faut aussi regarder, c'est la réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain, c'est que déjà, les échanges sont extrêmement intenses entre les différents pays asiatiques. Donc la marge de manœuvre, la marge de progression est relativement limitée. Donc tout ça pour dire que la révolution attendue ne sera peut-être pas aussi conséquente que ce que certains disent. Cela étant, il faut bien reconnaître que la communication de Pékin est très efficace et que si ce n'est une victoire économique pour Pékin, c'est une victoire diplomatique. Ça c'est clair, Pékin d'abord est omniprésent. On voit Xi Jinping tous les jours, partout, à une tribune différente chaque jour, vantant les mérites de la Chine et la capacité de la Chine à défendre ce système multilatéral, la capacité de la Chine à s'inscrire dans une logique de libre-échange, que ce soit vrai ou pas, ça n'a que très peu d'importance. C'est en tout cas la communication, c'est le message qui est martelé par Pékin, et Pékin est omniprésent en ce moment. Donc il me semble que s'il y a une victoire de la part de Pékin, c'est une victoire mais plus diplomatique qu'économique. Si on regarde vraiment les détails de l'accord, moi je ne suis pas sûr que ce soit la révolution que certains disent. Je pense que l'autre grand accord qui a été signé, qui est déjà mis en œuvre, qui est le CPTPP, donc l'ancien TPP revu et corrigé sans les États-Unis, qui a été poussé par le Japon et qui finalement a survécu au départ américain et qui entre en vigueur, cet accord-là est beaucoup plus important. Et d'ailleurs,
on verra si Joe Biden décide de le rejoindre quelques mois.
Oui, je pense qu'il y a un élément qui va peut-être inciter Joe Biden à rejoindre ce CPTPP, c'est le fait que hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement quand ça s'est passé, Xi Jinping lui-même a dit qu'il envisageait que la Chine rejoigne aussi le CPTPP. Là aussi, c'est une annonce qui me paraît être de la communication à 100%. J'ai quelques difficultés à imaginer la Chine accepter toutes les dispositions qui font partie de ce traité, qui est, lui, beaucoup plus ambitieux encore que le RCEP et qui imposerait...
Et notamment des normes sociales.
Voilà, qui imposerait à Pékin beaucoup plus de contraintes que je ne vois pas Pékin accepter très aisément. Mais le fait d'annoncer ça montre à nouveau la bonne volonté de Pékin. Et ça peut aussi inciter les États-Unis peut-être à revenir dans le jeu, parce que sinon, ils se retrouveraient exclus de 2 gros accords qui impliqueraient la Chine.
Donc là, Pascal Lamy, les États-Unis excluent donc de 2 gros accords, comme vient de le souligner Françoise Nicolas, et l'Europe aussi. De fait, les États-Unis et l'Europe qui se sont livrés sous l'impulsion énergique, en l'occurrence de Donald Trump, à une autre sorte de manœuvre commerciale qui est la diplomatie des sanctions. Jusqu'à quel point est-ce que l'importance prise par les sanctions dans le champ commercial et financier international fausse davantage encore le système ?
D'abord, d'accord avec ce qui vient d'être dit sur cet accord qui a été annoncé à grand son de trompe, et notamment à Pékin. Il y a des accords commerciaux petits et profonds, il y en a des grands et superficiels, il y en a des grands et profonds d'ailleurs, mais celui-là est un grand et superficiel. Et c'est vrai que les Chinois se sont fait offrir par M. Trump une superbe occasion de briller à très bas prix. Et je suis d'accord avec François Nicolas pour dire que, en tout cas dans la presse occidentale, on en a fait tout un tabac, à tort, parce que généralement ces choses-là sont commentées par des gens qui n'ont pas regardé le détail de l'accord et qui pensent que tout accord commercial est un accord qui libéralise complètement les échanges, ce qui est complètement inexact.
Sur votre... Et vlan pour les journalistes.
Pour un certain nombre des papiers que j'ai lus, j'ai parlé de la presse occidentale en général. Pour être très précis, puisque vous me titillez sur ce point, c'est la presse allemande et la presse néerlandaise qui ont fourni des diagnostics juste sur la portée très relative de cet accord. Ouais. Sur votre question sur les sanctions, vous avez parfaitement raison. On a toujours eu, en tout cas depuis longtemps, un problème avec... un pays sur cette planète qui viole depuis très longtemps et de manière tout à fait systématique le droit international, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, et qui utilise leur pouvoir, et notamment le pouvoir du dollar, mais aussi l'importance de leur marché et de l'accès à leur marché pour des firmes étrangères, pour étendre des sanctions que tout État souverain, conformément au droit international, est en droit d'imposer à ses ressortissants. Ça, c'est le principe de la souveraineté, qui est celui qui base l'ordre international juridique d'aujourd'hui. Il y a une exception, qui sont les États-Unis d'Amérique, et qui imposent à d'autres que leurs ressortissants l'obligation de se conformer à des sanctions commerciales, financières, que les États-Unis ont décidé pour des raisons de politique étrangère et pas pour des raisons commerciales, pas pour des raisons de lutte contre la corruption, pas pour des raisons de respect de la concurrence, pour des raisons de politique étrangère.
Mais l'Union européenne s'y est mise aussi de son côté.
Non. Non, Christine Ockrent, non. L'Union européenne ne fait ceci que très 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 rarement. Et en général, d'ailleurs, en conformité avec ce que font les États-Unis, ça a été le cas sur l'Iran pendant longtemps, jusqu'à ce que Trump sorte du deal, ça a été le cas de temps en temps sur la Russie. La vérité, c'est que ce qui se passait à relativement bas bruit du temps avant Trump a pris des proportions beaucoup plus considérables parce que Trump, en quelque sorte, a militarisé, a politique étrangérisé beaucoup de l'action économique et commerciale américaine, et notamment sur la Chine. Et alors là, vous avez raison, revenons à l'Europe, et d'ailleurs les instituts Jacques Delors qui existent à Paris, à Berlin et à Bruxelles sont en train de travailler sur cette question pour actualiser un papier qui avait été publié par l'Institut Jacques Delors Paris en 2018, qui est au fond comment l'Europe, qui dit maintenant s'avancer dans une certaine forme de souveraineté, d'autonomie stratégique, on dit ça à Bruxelles parce que le mot souveraineté, qui est très familier à nos concitoyens, l'est un peu moins à d'autres pays européens, comment l'Europe doit-elle réagir à la montée de ces sanctions lorsque, par exemple, les Américains décident que des entreprises non américaines, européennes, ne doivent plus fournir de composants électroniques à Huawei. Alors, qu'on impose ça à des entreprises américaines, encore une fois, le droit international le permet tout à fait, mais qu'on impose ça à des entreprises européennes et qu'elles soient obligées d'obtempérer, parce que sinon, si leur dirigeant met les pieds à l'aéroport aux États-Unis, on le colle en tôle.
Oui, il y a eu des cas.
Il y a eu des cas où si ces entreprises sont... le marché américain leur est fermé, y compris les financements en dollars, il y a un vrai problème. Et là, il faut revenir sur cette question. Les Européens l'ont fait avec un couteau, avec un manche et pas de lame, quand les Américains sont sortis de l'accord sur l'Iran avec un dispositif qui s'appelle Instex, que personne ne connaît, et qui permet en gros aux entreprises européennes de faire du troc avec les entreprises iraniennes pour ne pas avoir à passer par le dollar, ceci n'a pas marché. Il faut réfléchir à quelque chose de beaucoup plus puissant. Et en gros, il va falloir, à notre avis, à mon avis, mais j'attends que nous ayons les idées bien au point pour en parler précisément, il va falloir être beaucoup plus vigoureux dans la réciprocité.
Si on en arrive, Pascal Lamy, pardon, je vous interromps, on en arrive pratiquement à la conclusion de cette discussion, et je voudrais vous demander brièvement à l'une et à l'autre, et je commencerai par vous, Françoise Nicolas, est-ce que l'on assiste, et ce G20 en est en quelque sorte l'occasion, est-ce qu'on assiste véritablement à un basculement du centre de gravité du monde, davantage vers l'Asie, pour des raisons démographiques, bien évidemment, économiques, commerciales, technologiques, ou est-ce que l'effet d'optique est excessif de notre part ? Notre crainte aussi.
Je pense que le basculement est effectivement en cours. Il n'est pas tout récent, il est en cours depuis un moment. Cela étant, ça ne veut pas dire non plus que on n'est pas, nous, Européens en particulier, notre mot à dire. Et je pense que du coup, avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden et une posture de sa part plus favorable au multilatéralisme, plus favorable à la relation transatlantique, on a quand même encore peut-être notre mot à dire. Donc certes, le monde bascule vers l'Asie, ça me paraît assez incontestable, mais ça ne veut pas dire non plus que l'Occident soit complètement mis de côté et qu'il n'ait plus du tout rien à dire dans la gouvernance du monde. Et
je pense que Pascal Lamy, est-ce que vous partagez cette note relativement optimiste, vous qui avez forgé un nouveau mot, me semble-t-il, le polylatéralisme, c'est-à-dire cette idée que, à côté des États, du système westphalien que vous décriviez d'entrée de jeu, eh bien, il y a tellement d'acteurs aujourd'hui dans le jeu international qu'il faut commencer à penser autrement le système. Une réponse très brève, s'il vous plaît.
Oui. Et tout en étant parfaitement d'accord avec l'idée que le monde bascule vers l'Asie, c'est évident, et il y en a encore pour quelques décennies, l'idée, effectivement, quand on regarde ce multilatéralisme étatique malade, souffreteux, l'idée, et c'est celle d'ailleurs qui est à la base du Forum de Paris sur la paix qui s'est tenu la semaine dernière à Paris et qui a été un énorme succès digital, un peu inattendu d'ailleurs, mais néanmoins très important, c'est effectivement que il faut sortir de cette espèce de monopole de la relation internationale que le système inventé au XVIIe siècle a confié à des États-nations pour faire participer à la vie internationale à des progrès en matière d'environnement, en matière de santé, en matière de développement, en matière d'inclusion sociale, avec des entreprises, des ONG, des grandes institutions académiques, des villes, comme Paris, par exemple, qui est un acte international important.
Eh bien, voilà, le message est bien compris. Merci, pardon de vous couper ainsi la parole, Pascal, mais le chronomètre nous impose sa loi et la programmation de France Culture, qui connaît un tel succès. Et donc, merci à vous, Pascal Lamy, merci à Françoise Nicolas, merci bien sûr à Stéphane Lacroix. Vos différentes publications sont à retrouver sur notre site. Je remercie bien sûr Luc-Jean Reynaud à la réalisation, Edouard Rubinstein à la technique, Hugo Boursier qui a préparé cette émission, et voici bien sûr comme chaque samedi Hervé Gardet. Très bon week-end et à samedi prochain.